Mais pourtant, ainsi va la vie comme un invité mystère.
Bonjour, bienvenue dans l'émission Ainsi va la vie sur Occitanie Première. Aujourd'hui, je reçois Jean-Michel Latte. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Irène.
Également présent dans notre studio, son papa Armand Latte, qui je l'espère nous livrera quelques jolis souvenirs des jeunes années de Jean-Michel. Bonjour Armand.
Bonjour Irène.
Et pour commencer, je tente l'exercice de vous présenter Jean-Michel Latte. Vous êtes né le 19 juin 1960 à Toulouse d'un père toulousain, Armand Latte, et d'une mère aveyronnaise, Françoise Rouzet. Vous effectuez votre scolarité tout d'abord à Saint-Stanislas, puis Saint-Joseph, Sainte-Marie-des-Champs. Vous obtenez un bac D en 1978. En ce qui concerne vos études, une maîtrise de droit en 1982, un DEA de sciences sociales du travail en 1983 et enfin un doctorat de droit privé en 1989. Vous êtes tour à tour allocataire de recherche, d'enseignement, attaché d'enseignement et de recherche, maître de conférences, chercheur et bien sûr professeur. Vous recevez diverses distinctions à titre universitaire. D'ailleurs, pour avoir fait quelques recherches, j'ai pu constater qu'il s'agissait là d'une tradition familiale. Je regarde Armand. Vous avez participé à de nombreux colloques, activités de recherche, écrit et coécrit divers ouvrages et articles, bien trop nombreux pour les citer ici. En parallèle, vous avez eu divers mandats dans notre belle région, dans notre belle ville rose. Et vous êtes aujourd'hui premier adjoint au maire en charge des transports et des déplacements. Vous êtes aussi responsable de la culture et langue occitane, vice-président de Toulouse Métropole en charge de la mobilité, président du SMTC-TICO, l'autorité organisatrice de transport. On peut également indiquer que vous êtes président de la commission des noms de rue et président du Conservatoire occitan des musiques et des danses traditionnelles. Quel parcours, hein ! Mais tout de suite, je souhaite commencer en donnant la parole à votre papa. Armand, racontez-moi, quel genre de petit garçon était votre fils aîné ? Espiègle, timide, extraverti ?
C'était un gentil petit garçon, déjà, un gentil petit garçon. Quand il est né, déjà, il n'a pas trop pleuré, donc il nous permettait de dormir comme il faut. Ensuite, il s'est révélé toujours extrêmement agréable et il était très aimé, je crois, de tous ses petits copains. C'était un gentil garçon, d'un bout à l'autre. Un bon camarade, voilà, oui.
Il était bon élève ?
Il était, oui, bon élève. Oui, il ne nous a jamais posé de problème au point de vue scolarité. Je peux aller jusqu'au bout de la scolarité, par exemple ?
Oui.
Alors, par exemple, il n'y a eu qu'un seul problème, je dirais, quand il était à Saint-Joseph. Il devait normalement passer en bac S scientifique. Et il m'a dit, je peux te parler ? Je lui ai dit, oui, bien sûr. Voilà, je crois que j'ai fait le choix de ma situation. Je voudrais faire le droit. Ah, ben c'est très bien, ça, oui. Alors, est-ce que tu crois que c'est nécessaire que je fasse un bac mathématique ? Oh, je lui dis, écoute, je vais demander conseil. Alors, j'ai vu M. Despac, avec qui il a fait sa thèse après. Je lui dis, donc, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce qu'il faut pour le... Oh, il dit, n'importe, le bac D, ça ira très bien. Oui, c'est parfait. Très bien. Alors, je n'ai jamais su s'il avait choisi le bac D, parce qu'il aimait le bac D, qui était un bac de sciences naturelles. Et donc, peut-être, c'était une des raisons principales. Mais surtout parce qu'on ne faisait pas le bac D à Saint-Joseph. Donc, il était obligé de quitter Saint-Joseph pour aller où ? Mais pas loin, à Sainte-Marie-des-Champs, qui était une école de filles et qui, pour la première année, s'ouvrait aux garçons. Donc, il s'est retrouvé au milieu d'une bande de filles. C'était la première fois qu'il y a des filles, que des garçons allaient dans cette école. Alors, je ne sais jamais su si c'était parce qu'il aimait les sciences naturelles ou bien simplement parce qu'il voulait être dans un milieu féminin.
C'est un hasard, Jean-Michel ?
Dans la classe, on était 3 garçons et 30 filles, dont un de mes meilleurs amis qui avait vendu la même salade à ses parents pour pouvoir ouvrir l'arrivée des garçons à Sainte-Marie-des-Champs.
Donc, on peut te féliciter d'avoir ouvert justement le lycée de Sainte-Marie-des-Champs aux garçons. C'est bien.
Alors, vous dites un petit garçon sage, oui. Avec une bonne scolarité.
Oui.
Jamais de bêtises ?
Non, c'est son frère surtout qui les faisait. Alors, il suivait des fois, hein, son frère le second, Bernard, qui était toujours en train de faire des bêtises. Nous avions une maison, qu'il a maintenant, hein, au bord de la Neste, à côté de Saint-Lary. Ils disparaissaient à l'époque, il y avait encore pas mal de fourrés, tout ça. Ils disparaissaient tous les deux. Et on ne les voyait que longtemps après. C'était déjà son amour pour la montagne, vous voyez, qui se manifestait d'une certaine façon. Non, c'était un gentil garçon. Il avait une santé un peu fragile quand même. Hein. Il était maigre, vous voyez, alors que ça a changé, ça, il faut le savoir. Hein.
Il s'est rattrapé.
Il était maigre. Alors, une année, je devais aller à un congrès qui était à Annecy. Il avait 7 ans à peu près. Et on avait décidé, pendant qu'on partait au congrès à Annecy, de mettre dans une maison à Font-Romeu pour qu'il puisse reprendre des couleurs, etc. Et là, il a attrapé une maladie. Je ne me rappelle plus ce que tu avais attrapé. Bon, il a attrapé une maladie d'enfant, mais une maladie rare. Et conclusion, quand on l'a récupéré 15 jours après, il avait encore maigri par rapport à ce qu'on avait fait. Donc, ce n'était pas une réussite, non. Non. Il était, mais malgré ça, il était volontaire et donc il a décidé d'être scout. Il a été scout longtemps, scout toujours, hein, c'est ça, scout un jour, scout toujours. Et ce qui se retrouve, je crois, encore dans son caractère maintenant, il aime bien aider les gens, rendre service.
Tourner vers les autres.
Voilà, tourner vers les autres, c'est ça. Donc, ça a été, je crois, le couronnement de sa carrière de jeune garçon, d'être scout.
Un peu.
Vous, Jean-Michel, quel est votre souvenir sur justement toutes ces jeunes années avant votre bac?
Alors, on se souvient toujours fortement des vacances. Et les vacances à Saint-Lary, c'était quelque chose de magique. C'est-à-dire que mes parents, étant enseignants, comme moi, ils avaient des vacances. Alors papa, il venait jamais sans ses cartables, mais enfin, il venait quand même en vacances avec ses cartables. Et donc, on a passé des très grandes périodes à Saint-Lary, puisqu'il y avait les 3 mois d'été, il y avait les vacances de Pâques, les vacances de Noël, les vacances de février. Donc, on était très, très souvent dans la maison de la Vallée d'Or. Et c'était un terrain de jeu immense qu'on ne retrouve pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on était en liberté, on partait le matin, on rentrait le soir. Les parents ne s'occupaient pas de nous, ils nous laissaient faire ce qu'on voulait. Alors c'est vrai qu'on a dû faire quelques bêtises pendant ce temps-là, mais aussi on allait dans un endroit naturel qui était magique, qui reste magique, mais qui aujourd'hui est plus compliqué d'accès pour des jeunes enfants.
Est-ce que votre papa a l'air de dire que vous avez fait très peu ou pas justement de bêtises étant enfant? Est-ce que peut-être vous lui en avez caché, que vous aimeriez lui raconter aujourd'hui?
Non, c'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que moi, je faisais des bêtises que j'arrivais à cacher. Et mon petit frère, lui, il les faisait tellement franchement qu'il était le principal accusé. Mais avec Bernard, on a longtemps fait des bêtises communes. La plus dramatique que j'ai en tête, c'est quand j'avais lancé une flèche indienne sur sa cuisse. Et qu'elle avait traversé le jean et la cuisse et qu'il saignait de partout. Ça faisait partie des choses que j'ai pu faire à Saint-Lary.
Moi, j'ai un autre souvenir.
Aïe.
Sans aucune gravité. Mais je me souviens que vous aviez décidé de vendre des journaux à un moment donné.
Oui.
Alors, ils avaient pris les journaux, ils ont fait toutes les maisons des alentours. Évidemment, les gens n'osaient pas leur refuser. C'était des vieux journaux. Hein. Ils avaient eu des Tintins, des choses comme ça. Peut-être pas les Tintins, parce que ça, ils les gardent. Hein. Mais les autres journaux, bandes dessinées et autres. Et ils avaient fait la tournée. Alors, évidemment, ils les avaient vendus parce que les voisins n'osaient pas leur acheter par gentillesse.
Hein. On était allés voir tous les amis des parents, comme ça, c'était des bons clients. Par contre, on avait aussi essayé d'aller les vendre à la maison de la presse, et là, ils n'ont pas été bons clients du tout. Quoi, c'était.
Alors, on arrive à vos 20 ans. Là, tout de suite, comme ça, votre premier souvenir, vos 20 ans, vous les résumeriez comment?
Alors, mes 20 ans, c'était un peu particulier. Bon, la fac de droit se passait bien. Je sentais que c'était de plus en plus quelque chose qui m'attirait. J'avais eu la chance de suivre les cours de Michel Despax en droit du travail et je m'étais dit, c'est ça que je veux faire. Donc, c'était la vie étudiante bénie puisqu'on terminait l'année universitaire en juin et on reprenait mi-octobre. Donc, on avait une plage de temps immense. Et ce que je retiens le plus, ce sont mes voyages parce que je partais dans le monde entier. J'ai traversé l'Europe, j'ai vécu avec des Indiens d'Amazonie. Enfin, j'ai pas mal voyagé et ça a été une période très, très agréable.
Dans quelles conditions, à l'époque, vous voyagez?
C'était du bricolage, c'est-à-dire que quand on a traversé l'Europe avec un de mes amis, on avait la carte Interrail et on dormait n'importe où. On dormait la nuit dans les jardins publics et le matin, c'était la police qui venait nous sortir du jardin public. On dormait dans les trains pour gagner du temps sur la journée. En plus, comme on nous avait dit que les Français avaient une bonne cote dans les pays scandinaves, on était montés avec des sacs à dos couverts de drapeaux français pour bien montrer qu'on était des Français. Voilà, c'était ça. Et ça, c'était assez magique parce que c'était une très grande liberté. Il n'y avait pas d'insécurité. Il n'y a pas d'insécurité. On dormait n'importe où. Voilà. Et tout cela, c'est ça dont ce que je retiens le plus. Après 20 ans, c'est pas forcément magique parce que c'est une période où on est un peu dans l'inquiétude, l'incertitude. On ne sait pas ce qu'on va devenir. Moi, j'ai autant aimé mes 50 ans que mes 20 ans.
Alors, mais on n'en est pas encore là, on va y venir. Mais pour l'instant, je souhaiterais justement rester sur ces 20 ans. Donc là, c'est une période où vous n'alliez plus en vacances à Saint-Lary.
J'y allais quand même, parce que les vacances restaient longues.
Sur les vacances courtes.
Mais je partais grandes, avec des copains et je retrouvais mes parents quand je revenais à Saint-Lary. Saint-Lary, c'était le port d'attache. Donc j'allais, je venais, mais je veillais quand même à garder un peu de temps pour Saint-Lary.
20 ans, vous aviez déjà une idée de ce que vous vouliez faire comme métier ?
Alors, c'est venu avec le temps. Quand je suis rentré à fac de droit, c'était la magistrature qui me tentait. Puis j'ai rencontré des magistrats, ils ne m'ont pas fait rêver. Donc voilà. Et puis j'ai rencontré Michel Despax, prof de droit du travail. Je me suis dit, c'est vraiment pas mal. Et donc j'ai continué, j'ai fait un DEA.
Le droit du travail, ça évolue en permanence.
Oui, sans arrêt. Et puis, finalement, j'ai suivi le parcours de mon père, puisque j'ai fait une thèse et puis je suis resté à l'université. Donc, ma pseudo-révolte en la matière n'est qu'une pseudo-révolte. Le papa, il veut parler.
Oui, je veux rebondir sur plusieurs choses. D'abord, nous avons parlé des voyages, et c'est le souvenir de son voyage au Venezuela, quand il est allé en Amazonie, ouais. Où, à partir de la dernière ville habitée, il fallait faire 18 jours de marche à pied et de pirogue avant d'arriver à l'endroit où se trouvait un de nos cousins, qui était petit frère de Foucault et donc missionnaire au milieu des Indiens. Alors, il a passé déjà de beaux moments là-bas, mais malheureusement, il s'est fait piquer par une bête, et vous savez que c'est dans ce coin-là, il y a beaucoup de bêtes sauvages, et là, c'était un insecte, certainement, et il en a résulté une petite attaque cardiaque, oui, si je me souviens bien, qui n'a pas laissé de traces, mais enfin, qui fait que il a fallu d'abord trouver un médecin qui était capable de retrouver ce que c'était. Et c'est dans les médecines militaires que nous l'avons trouvé. Oui. Et ensuite, il a été très bien soigné parce qu'après, il n'y a plus de traces après cette chose-là.
Alors, une petite parenthèse, c'était des copains de papa médecins qui me soignaient. Et pour eux, j'étais un cobaye parce que j'avais une maladie rare. Ils trouvaient ça super intéressant. Quoi.
Ça devait être très inquiétant.
Ça devait être très scientifique.
Oui. Ces hommes étaient un petit peu inquiets parce que, bon... ça se déclare, on ne sait pas ce que c'est. Et heureusement, les médecins militaires ont l'habitude de ce genre de... Ils disent, mais ça doit être ce truc-là, certainement. Alors, je voudrais, si j'ai encore le temps...
Allez-y, oui, je vous en prie.
De parler de la vocation de Jean-Michel pour l'enseignement supérieur. Un jour, il m'a dit, moi, je ne serai jamais prof de fac, parce que c'est un métier de feignant et de gagne-petit. Alors, de gagne-petit, je suis d'accord. Et de feignant, je ne crois pas lui avoir donné l'exemple. C'est un métier de feignant. Et ce qui prouve qu'on peut changer quand même. Hein. On peut changer. Alors... Donc, je dis la vérité. Donc, c'est comme ça. Bon, je lui dis, s'il veut faire autre chose. Je crois qu'on ne l'a jamais poussé à faire un métier particulier. Chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Mon dernier fils est producteur de cinéma. Par conséquent, on peut trouver tout ce que l'on veut dans la famille.
Mais c'est vrai que on parle de l'enfant, de l'ambiguïté d'enfance, de l'ambiguïté des relations père-fils. L'enfant, il veut toujours se réaliser par rapport au père. Mais en fait, moi, j'ai voulu faire la même chose que mon père. Je m'en suis aperçu après, pas avant, mais j'ai voulu faire la même chose. Et finalement, la vie qu'il nous avait montrée avec ses cartables, qu'il a mené en vacances, sa recherche, ses voyages, ses publications, tout ça, c'était très séduisant. Et je m'aperçois que j'ai voulu recopier le modèle que j'avais vécu comme enfant et avec grand bonheur, je ne regrette pas.
Oui.
Je voudrais rectifier quand même une chose, parce qu'il a parlé de 3 mois de vacances. Non, je n'ai jamais pris 3 mois de vacances.
Non, toi jamais. Ah,
c'est pas possible. Ça n'était pas possible.
Non, mais moi, si, parce que j'étais à l'époque où les enfants avaient les congés.
La recherche en droit n'est pas la même chose que la recherche en chimie, par exemple. On a besoin de laboratoire, le droit a besoin de livres, certainement, davantage.
Et voilà, de cerveau.
Surtout maintenant, avec Internet, on a accès partout.
Hein. Oui, c'est vrai.
C'est formidable, ça, oui.
Quelles étaient vos lectures à 20 ans, Jean-Michel ?
Alors moi, je lisais beaucoup. Bernard, mon frère, ne lisait rien. Il dit toujours qu'il peut compter les nombres de livres qu'il a lus sur les doigts de sa main. Et moi, je lisais tout le temps. Et alors, bon, je lisais tout. Mais il y avait quand même quelques auteurs que j'ai lus et relus. Alors, ce n'est pas fondamentalement original, mais moi, j'aimais bien tout ce qui était un peu épopée, épique, etc. etc. Donc, j'ai lu et relu Saint-Exupéry. J'ai lu et relu Alexandre Dumas. Voilà, ça c'était vraiment des choses, des espèces d'épopées que je suivais avec grand bonheur. Voilà, c'était. Mais je lisais tout ce qui passait. Hein, c'était.
Je crois que c'était aussi un exemple parce que je lis tout également, y compris les BD. Hein,
voilà.
À mon âge.
Avec une culture qui était double, c'est-à-dire que je lisais beaucoup de livres de grande littérature. Mais grâce à mes parents, j'étais abonné au journal Tintin, mon frère était abonné au journal Spirou, et donc on a eu toute une culture BD qui est née de cette époque-là. Hein.
Et j'en profitais d'ailleurs, parce que je les lisais aussi, bien entendu.
Oui, on se les passait de l'un à l'autre.
Et la musique ?
Alors la musique, j'ai jamais été très imprégné de musique, mais je vais dire quelque chose qui est très particulier. Je me rappellerai toujours les voyages en Renault 16, avec des grandes distances, sur des fauteuils en Sky qui nous brûlaient les fesses. Et pendant ces voyages, papa y chantait. Et donc on chantait tous. C'était, y avait pas de radio. Mais on chantait, hein, je ne sais pas si tu te souviens. Oui, il chantait beaucoup Gilbert Bécaud, il chantait beaucoup des choses comme ça. Et donc, l'habitude qu'on avait en voiture, c'était de chanter. Et je crois que j'ai toujours gardé, à partir de là, ce plaisir pour le chant.
C'est vrai que c'est un plaisir. Hein.
Jean-Michel et les jeunes femmes à 20 ans.
Oh là, on va rentrer dans un sujet délicat. C'était une période, disons, d'instabilité.
D'accord. Hein,
pour prendre un mot...
Vous n'étiez pas timide ?
Je crois pas. Mais j'étais assez amoureux transi à l'époque, quand même. Hein. C'était, au début, j'étais assez amoureux transi. Et puis après, j'ai vieilli.
Enfin, il est dragué, quand même, je dois dire. Parce que, si je peux prendre la parole...
Oui, mais tu es là pour ça. Tu es là pour,
oui,
ça,
je sais.
Pour dire ce que je dis pas.
Bien sûr. Je me souviens, il avait une mobylette, vous voyez. Donc, il n'a jamais demandé de moto, d'ailleurs, ni autre chose. Donc, il est passé de la mobylette à la voiture.
Peugeot 103.
Voilà. Alors, il avait une mobylette. Et avec cette mobylette, il allait au lycée de Sainte-Marie-des-Champs, bien sûr. Et nous exigions qu'il porte un casque, bien sûr. Alors, à l'époque, les casques n'étaient pas très, très jolis. Hein. Alors, il partait avec le casque. Je lui dis, tiens, il est formidable. Et puis, un jour, je l'ai suivi. Et dans la rue à côté, il s'arrêtait, il enlevait le casque, il repartait comme ça, de manière à être les cheveux au vent, pour plaire davantage aux filles, voilà.
Et d'ailleurs, une fois, j'ai eu un accident, parce que je remontais la rue Jean-Rieux.
Deux fois, tu es d'accord.
Et j'avais le casque à la main, et une voiture a ouvert la porte quand je passais, et donc, j'ai eu malgré le casque à la main, j'ai eu la main cassée, quoi. C'était parce qu'il fallait rester les cheveux au vent à l'époque.
Je suis allé le récupérer à l'hôpital, d'ailleurs. Alors, fort heureusement, l'interne de garde était une de mes anciennes élèves. J'ai enseigné longtemps en médecine. Oui. Donc, elle m'attendait devant la porte pour me rassurer. Donc, quand je suis arrivé, elle me dit « Rassurez-vous, c'est rien. »
L'avantage d'avoir un père scientifique, c'est que chaque fois que j'avais un accident, c'était toujours un de ses copains qui me soignait. Donc, ça se passait plutôt bien.
Vous avez voulu faire comme votre papa, mais pas dans une carrière scientifique, dans le droit.
Mais le droit, c'est
simplement
scientifique aussi.
Pour partir dans une école mixte.
Non, par goût, j'aimais beaucoup le droit. Quoi. Et j'aime toujours beaucoup le droit. Je trouve que c'est magique, le droit. Le droit, c'est ce qui permet de faire évoluer la société. Ce sont ces règles qui nous conduisent vers le bien ou vers le mal. Donc, c'est un métier qui est magique, qui est magnifique. Et j'aurais fait du droit, quoi qu'il arrive. Peut-être une autre carrière, mais c'est vraiment quelque chose qui me fascine.
Vous avez dit tout à l'heure... Avoir préféré vos 50 ans à vos 20 ans. À 20 ans, on a toujours, bien sûr, une certaine forme d'insouciance. Est-ce que vous regrettez au moins cette part d'insouciance ?
Oui, certainement, certainement. On n'a pas de soucis à 20 ans. Mais on n'est pas dans la sécurité non plus. Hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on va être, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Tandis qu'à 50 ans, on a une trajectoire.
Donc l'avenir vous faisait un petit peu peur ?
Oui, 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 c'est vrai. Et puis, c'est simple de dire qu'on est devenu enseignant, mais chaque étape était décisive. J'aurais redoublé une année. J'aurais pas eu les mentions qu'il fallait. Ben, c'était fini. Une fois que j'ai eu la thèse, il fallait que je sois nommé. Enfin, tout cela, c'était des épreuves continues. Et il suffisait d'un seul grain de sable sur ce parcours pour que mon objectif ne soit pas réalisé. Hein, donc, c'est pas quand même tout à fait sécurisant.
À quel âge remonte votre engagement politique ?
Alors, c'est en deuxième année de droit, je revenais d'Amazonie, et puis j'ai été interviewé sur France 3. J'ai fait un beau reportage sur France 3 par Catherine Lévy, qui était journaliste à l'époque, l'épouse de Jacques Lévy, l'avocat. Et il y a eu quelqu'un de mon amphithéâtre qui a regardé le reportage. On était dans le même amphi, on se connaissait. Il s'appelait Jean-Luc Moudenc. Et donc, Jean-Luc Moudenc, quand je passe à la télé, le lendemain, il avait vu le reportage, Il m'attrape, il me dit, c'est génial ce que tu as fait, viens me raconter, on va prendre un café. Et puis on devient copains. Et puis lui, il était déjà élu partout. Il était président de la Corpo, vice-président de l'université. Il avait vraiment fait un parcours éblouissant dans le syndicalisme étudiant en particulier. Petit à petit, il me dit, tiens, je fais une conférence, viens me voir, etc. Et je suis rentré avec lui dans un parti démocrate chrétien qui s'appelait le CDS. Donc je devais avoir 23-24 ans. Mais c'est parce que je l'ai rencontré que je suis allé en politique. Peut-être que si je ne l'avais pas rencontré, je ne serais jamais rentré dans ce mouvement-là. Et donc depuis, le hasard de la vie fait que je le suis dans ses mandats et que je l'accompagne un peu.
Vous parliez politique à la maison ?
Oui, bien sûr. Alors, vous savez, je vais parler politique alors en parlant de l'ensemble de la famille. Hein. Oui. Je suis d'une famille d'ouvriers, donc plutôt de gauche. Mon père était communiste. Et quand il a abandonné le Parti communiste, c'est à la suite de problèmes qu'il a eu avec la cellule à laquelle il était. Donc, Jean-Michel a eu un exemple complet de tout ce qu'on peut trouver au point de vue politique. Mon oncle, que j'aimais beaucoup, était SFIO, mon père était communiste, et moi, je n'étais ni l'un ni l'autre, au contraire, plutôt attiré vers une droite modérée, donc centriste un peu, comme ce qu'il est devenu. Mais je ne pense pas l'avoir influencé en quoi que ce soit dans le choix politique, c'est lui qui l'a fait. D'abord parce que nous sommes d'habitude tolérants dans la famille, en même temps, il avait ce choix que chacun pouvait lui présenter. Par conséquent, on ne peut pas dire qu'il a pris le choix de son grand-père, celui de son père, il a fait son propre choix, et je m'en félicite personnellement.
À une nuance près, c'est qu'on a été élevé dans l'humanisme et la tolérance. Et quand on est élevé dans une famille qui incarne cet humanisme et cette tolérance, si on est influencé, on va dans la même voie. On ne part pas vers d'autres dispositifs. Je ne me rappelle pas avoir vu dans notre famille des extrêmes, par exemple.
Non.
Donc, voilà, je n'ai pas été tenté par les extrêmes. Et je crois que je reproduis assez bien la façon dont nous avons vécu, enfant avec mon frère, dans un contexte qui était complètement de fraternité, de respect de l'autre. Hein, ça faisait partie des choses de la vie.
Êtes-vous pratiquant ?
Alors, je l'ai été, je le suis un peu moins maintenant, j'avoue, mais ça reste quelque chose de très important, la religion. Ça reste quelque chose de très important.
Baptisé, communié.
Oui, baptisé, communié. Je vais régulièrement à la messe sur les événements, plus que chaque dimanche, voilà, très, très sincèrement. Mais ça reste quelque chose d'important que je revendique. Hein. Quand on me dit quelle est ton origine politique, je dis la démocratie sociale est chrétienne, hein, puisqu'il existe dans l'histoire chrétienne, de magnifiques textes. Je pense à l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII, qui est un texte qui est la préfiguration de ce que sera le droit du travail. Donc je crois qu'on peut trouver dans la religion des choses qui ont du sens.
Merci Jean-Michel.
Je pense qu'aussi on lui a donné l'exemple de la laïcité tolérante.
Hein, oui, c'est vrai.
À la manière de Jean Jaurès, par exemple.
C'est vrai, c'est vrai aussi.
Pour qui la fille a fait sa communion, alors que lui-même ne croyait pas.
Hein. Oui, c'est vrai.
Je vous propose tout de suite une première pause musicale et votre choix s'est porté sur ces cantos, les mal au cœur. On écoute.
Merci.
toujours émouvant. D'autant plus, Jean-Michel, expliquez-nous les mal au cœur.
Voilà, c'est un groupe qui a été créé en 2008 par Yannick Moya, où je suis depuis l'origine. Et on chante des chansons traditionnelles en occitan, en basque, en catalan. Et là, c'est notre version du Secanto chanté dans l'église de Fenouillet, l'hymne occitan. Et ça reste pour moi toujours quelque chose de très, très émotionnant.
Donc, ça fait 10 ans que vous chantez dans ce groupe.
Voilà,
et vous avez toujours le temps de chanter régulièrement.
Mais tous les lundis soirs, j'ai sacralisé la date. Je répète, tous les lundis soirs avec mon groupe, voilà, on répète.
Et vous vous produisez ?
Oui, on se produit, on a trop de contrats. Donc, la dernière fois où mon père est venu me voir, c'était à Saint-Orens, dans la grande salle de Saint-Orens. Il y avait une salle pleine de 400 personnes et donc on a passé un très très bon moment. Et on se produit beaucoup, non seulement dans la région, mais même au-delà, puisqu'on a tourné en Italie, on va tourner en Espagne, on a tourné en Pyrénées et en Corse.
Et vous avez quand même le temps à côté de faire d'autres choses, d'être professeur, d'être premier adjoint.
Mais ce matin, j'étais à la fac où je faisais cours avec mes troisième année AES. Et puis cet après-midi, j'étais un peu à Tisséo avant de venir ici.
Est-ce que le chant, c'est quelque chose également que vous avez, j'ai envie de dire, copié, entre guillemets, de votre papa ?
J'allais dire, le rythme de la journée, c'est copié-collé sur mon papa, parce qu'il avait toujours des journées comme ça. Et puis le chant, c'est lui qui, le premier, a chanté dans la famille.
Vous étiez également dans un groupe, Armand ?
Alors oui, quand j'étais tout petit d'abord, j'étais petit chanteur à la Croix-de-Bois. C'est une époque où les petits chanteurs à la Croix-de-Bois, qui étaient normalement parisiens seulement, avaient décidé de devenir aussi un peu régionaux. Et donc, il y avait dans quelques régions les petits chanteurs. Et nous étions les petits chanteurs du Languedoc, mais en réalité rattachés aux petits chanteurs à la Croix-de-Bois. Je me souviens avoir chanté sur la scène du Capitole avec les compagnons de la chanson. Il y a très, très, très longtemps de cela. Mais après, donc, à un moment donné, quand on est garçon, on mue, et j'ai mué comme tout le monde. Et à ce moment-là, je ne chantais plus de la même façon. Et avec deux camarades, j'étais au pensionnat Saint-Joseph, donc avec deux de mes camarades de la chorale, on a décidé de faire un trio vocal. Alors c'était ce qu'on appelait le trio gamme. Gabriel, Armand, Marius, c'était les initiales de nos prénoms. Et nous nous sommes produits un peu partout. Alors on faisait tout ce qui est comité d'entreprise, les fêtes de Noël un peu partout. Et puis pendant les vacances, on faisait les petits casinos de la côte languedocienne. Voilà. Alors la première année, ça avait très très bien marché. Et c'était l'année où on passait le baccalauréat. Moi, j'ai eu le bac, mais mes deux camarades ne l'ont pas eu. L'un a eu 15 ans de tout, l'autre 17 ans de tout. Et par conséquent, il fallait à peu près 50 pour être reçu. Ils étaient un peu loin du compte. Les parents étaient un peu déçus. Et ils ont attendu un an de plus quand même. Mais celui qui a eu 15 avait eu 17 la fois d'après. Et celui qui a eu 17 a eu 19. Ils ont compté que ça ferait quand même vers l'âge de 50 ans qu'il pourrait avoir le baccalauréat. Donc, ils les ont obligés à partir, l'un comme s'est engagé dans la marine et l'autre est parti comme mécanographe à la radio. Voilà, donc c'est là où s'est arrêté mes habitudes de chanteur. Je chante quand même encore dans la voiture, il a dit, je continue à chanter dans la voiture.
Et tu as une belle voix.
Oui.
Alors Jean-Michel, on a parlé de vos années, de vos jeunes années, on a parlé de vos 20 ans. J'aimerais qu'on parle maintenant de vos 40 ans, parce que 40 ans, c'est l'âge où un homme fait un premier bilan de vie. Je rappelle que vous avez 57 ans aujourd'hui. 40 ans. Comment étaient les 40 ans de Jean-Michel Latte ? Vous en étiez où ? Vous aviez créé, bien sûr, votre famille, vous aviez vos enfants, vous étiez installé professionnellement.
Oui.
Quel était ce premier bilan ?
C'est pas mal, 40 ans. 40 ans, on a les enfants qui sont là. J'avais mes fils. Professionnellement, on est bien installé. J'étais déjà élu à l'époque sous Dominique Baudis. Et donc, c'était une période que j'ai beaucoup aimée, qui est assez sereine. Parce qu'en plus, les enfants sont petits. Donc, ce n'est pas compliqué, les enfants petits. C'est quand ils grandissent que ça le devient. Mais quand ils sont petits, c'est finalement assez simple. Et donc, c'est une période assez bénie, avec là des vacances pour leur créer à leur tour des souvenirs, mais plutôt vers l'Auvergne, puisque à l'époque, je partais vers les monts d'Auvergne pour me reposer.
Est-ce que vous avez inconsciemment ou consciemment Essayez de recréer chez vous la même ambiance familiale que vous avez donné vos parents.
Clairement, le programme était toujours le même, hein. C'est-à-dire promenade en montagne, foire agricole, etc., etc. Donc c'était des vacances rurales avec autour de nous les monts auvergnats. Donc c'était vraiment un endroit très, très privilégié. J'avais loué une petite ferme isolée en pleine nature. Donc là, ils pouvaient retrouver la liberté que j'avais eue quand j'étais en Vallée d'Or autrefois.
À 40 ans, vous aviez changé vos habitudes de lecture ?
Non, toujours, je lis tout. Alors, j'ai changé quand même parce que je me suis mis à lire beaucoup sur le sens du droit, l'orientation du droit, le pourquoi du droit, etc., etc. Et ça m'a ramené vers d'autres auteurs, en particulier celui qui a écrit les choses les plus magnifiques en matière de droit, c'est Victor Hugo. Le discours sur la misère de Victor Hugo, c'est le plus beau discours qu'on puisse trouver sur le rôle de l'État dans la protection du salarié au travail. Donc, je me suis plongé dans ces auteurs qui, finalement, m'expliquaient pourquoi je m'intéressais au droit. Ma thèse est une thèse sur la discrimination, sur l'égalité. Ben, on trouve chez Victor Hugo toutes les justifications possibles d'une recherche juridique sur l'égalité.
Est-ce que Jean-Michel Latte, à 40 ans, avec son premier bilan de vie, bien installé dans la vie, avait peut-être déjà des déceptions de... Quand on est jeune, on a souvent de beaux rêves où on voit les gens d'une façon ou d'une autre et peut-être qu'après, en prenant de la maturité, on peut avoir des déceptions sur...
Non.
Non.
Non. Moi, j'ai l'impression que je suis béni des dieux. Finalement, j'ai fait ce que je voulais, comme je voulais. Je pense que mon père pourrait dire la même chose. On a eu la vie qu'on voulait. Je n'ai pas de regrets du tout, du tout, du tout. Je trouve qu'au contraire, quand je revois ce qui a été vécu, a été bien vécu. À 40 ans, j'ai eu mon troisième frère, Julien, en plus de Bernard. Mes fils sont arrivés dans la foulée. Franchement, c'était...
Vous avez une grande différence d'âge avec votre dernier frère ?
Oui, mon fils aîné a 4 ans de moins que mon petit frère.
Quel âge a votre petit frère ?
Un peu plus de 30 ans.
Ah oui, effectivement.
Un peu plus de 30 ans. Mais c'est des belles choses qui arrivent dans la vie. Et bon, après, j'ai eu la chance d'avoir une vie professionnelle sans difficulté particulière, toujours plus intéressante, avec toujours plus de colloques. Il y a un proverbe chinois qui dit que pour réussir sa vie, il faut planter un arbre, écrire un livre et faire des enfants. Moi, j'ai fait les trois, donc tout va bien.
Vous avez planté un arbre ?
Oh, plusieurs.
Plusieurs.
Mais papa aussi en a planté dans le jardin de Saint-Lary. Lui, il a planté des petits arbres qui sont aujourd'hui des très grands arbres.
C'est très beau, ce proverbe. C'est très vrai et c'est très beau.
Je voudrais revenir sur plusieurs mots qu'il a dit d'abord, ou sur plusieurs personnes. Bodis, je crois qu'il n'a pas assez dit que c'était quelqu'un qui l'avait fortement influencé.
Complètement.
Et que, bon, on pourrait le considérer un petit peu comme le grand frère par rapport à Jean-Michel.
C'est vrai.
C'est le premier point. Victor Hugo, alors là, c'est moi qui l'ai imité, vous voyez, pour une fois, même s'il ne m'a pas souvent imité quand même. Mais. J'ai récemment râlé contre la diminution des crédits qui avaient été attribués à la recherche.
Oui.
Et j'ai trouvé un discours de Victor Hugo qui datait de 1848 à l'Assemblée nationale. Et j'ai repris ce discours que j'ai publié dans ce qu'on appelle l'actualité chimique, qui est la revue des chimistes. C'est un grand discours, long et tout. Je n'ai changé que deux ou trois choses. Les choses que j'ai changées, il s'adressait aux députés, c'était messieurs. Il n'y a jamais mesdames, bien sûr. Alors j'ai ajouté messieurs et mesdames. Et j'ai fait passer ça comme un discours d'un député actuel. Et c'est très bien passé. Et je l'ai appelé au rapport. Et je n'ai rien changé si ce n'est ajouter madame quand il s'adressait messieurs les députés, c'était messieurs et mesdames, voilà, et c'est tout. Donc voilà un point.
On trouve tout chez Victor Hugo.
Ah oui.
Le droit du travail, la chimie, la recherche.
Alors,
t'as pas fini. Si,
tu veux... si. Non, mais justement, je voulais vous demander aussi, Armand, quel était votre regard de papa sur les 40 ans de Jean-Michel ?
Ben, j'étais ravi parce que c'était comme ça que j'imaginais moi un fils. Hein, donc ça m'a fait bien plaisir, c'est tout. Hein. Il a parlé de son petit frère. Je dois dire que c'est aussi une réussite familiale que d'avoir intégré un deuxième couple en définitive. Hein, et un petit garçon qui est adorable d'ailleurs. Qui est
il a grandi maintenant. Hein.
Il a grandi, il a 32 ans.
Ça reste quand même
producteur.
Même vous restez son petit garçon.
Ce qui était passionnant dans notre vie familiale, c'est que quand on allait manger chez papa Isabelle et qu'on arrivait qu'il y avait Julien ne savait pas se positionner, c'est-à-dire que quand on arrivait il faisait le grand frère avec Bernard et moi et au milieu du repas il allait jouer avec mes fils, c'est-à-dire qu'il y avait cette espèce de passage d'une... c'était quand même l'oncle
en fait, ça a lié quand même une complicité pour lui sur deux générations.
Exactement.
Ça a posé quelques problèmes quand ils allaient au centre aéré parce que Julien est allé au centre aéré puis après il a arrêté et ce sont les enfants de Jean-Michel qui sont allés au centre aéré du CNRS. Hein. Et là Adrien, le deuxième fils disait ah oui mais effectivement il y avait avant moi il y avait mon tonton. Alors le directeur du centre lui dit mais non c'est ton cousin. Non c'était mon tonton. Et il a fallu que Françoise aille dire au directeur, non, il ne se trompe pas, c'est bien son tonton.
Françoise, donc votre épouse.
Oui.
Voilà, oui.
Je vous propose une deuxième pause musicale. Et alors, votre deuxième choix s'est porté sur une chanson de Francis Cabrel.
Les murs de poussière, parce que ça raconte l'histoire de quelqu'un qui est parti dans le monde et qui revient chez lui et qui s'aperçoit que c'était sans doute le meilleur endroit pour lui.
On écoute.
Une ville de filles et de jeux. Il voulait vivre d'autres manières dans un autre milieu. Il rêvait sur son chemin de pierre. Je partirai demain si je veux. J'ai la force qu'il faut pour le faire et j'irai trouver mieux. Il voulait trouver mieux que son lopin de terre, que son vieil arbre tordu au milieu. Mieux que la douce lumière du soir près du feu qui réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Le soleil sur les murs de poussière, il voulait trouver mieux. Il a fait tout le tour de la terre, il a même demandé à Dieu. Il a fait tout l'amour de la terre, il n'a pas trouvé mieux. Il a croisé les rois de naguère, tout drapé de diamants et de feu. Mais dans les châteaux des rois de naguère, il n'a pas trouvé mieux. Il n'a pas trouvé mieux que son lopin de terre, que son vieil arbre tordu au milieu. Trouvé mieux que la douce lumière du soir. Chauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Soleil sur les murs de poussière, il n'a pas trouvé mieux. Il a dit je retourne en arrière, je n'ai pas trouvé ce que je veux. Il a dit je retourne en arrière, il s'est brûlé les yeux. Douce lumière du soir près du feu qui réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Au soleil sur les murs de poussière, il s'est brûlé les yeux. Il s'est brûlé les yeux. Il s'est brûlé les yeux.
Merci avec Jean-Michel qui chantait en playback pendant la chanson.
Mieux. Il n'a pas trouvé mieux que son lopin de terre et le vieil arbre planté au milieu.
Jean-Michel Latte, 2018, aujourd'hui à 57 ans, donc 58 au mois de juin. Quelle est votre actualité ?
Alors, c'est ma vie quotidienne, l'actualité, c'est-à-dire le passage d'une activité à l'autre. Ça, j'aime beaucoup. Donc, mon actualité politique... C'est une troisième ligne de métro. J'ai commencé à la creuser avec mon petit seau et ma pelle. Et il faut que cette troisième ligne elle soit bien lancée parce que je pense que ça va changer la vie des Toulousains. Donc je dis parfois, c'est ma cathédrale. Il faut que je construise ma cathédrale. C'est mon actualité forte. Après, j'ai des actualités partout. À la fac, mon actualité, c'est le prochain colloque auquel je participe, qui est un colloque de juin que je prépare dès maintenant sur les langues régionales avec les professeurs de droit public. Ça sera passionnant. Pour les mal au cœur, on prépare notre tournée en Espagne avec des répétitions permanentes qui sont autour de chants espagnols que l'on tente à quatre voix alors qu'ils n'existent pas à quatre voix. Dans mon club de rugby, mon actualité, c'est le prochain apéro, puisque ce qui est important dans mon club de rugby, c'est la troisième mi-temps. C'est la troisième mi-temps, je suis moins sportif qu'avant, je cours moins vite, donc je reste au moins à l'aise sur ça. Voilà, donc ce n'est pas une actualité, c'est plein d'actualités. Et puis, pour l'Occitanie, puisque j'ai quand même la délégation occitane, c'est l'année 2018 qui va être l'année du 800e anniversaire de cette fameuse pierre lancée par une Toulousaine qui, le 25 juin, a fracassé le crâne de Simon de Montfort et a permis à la cité occitane de revivre. Quoi ?
Excusez-moi.
Irène a le fou rire. Oui, vous me faites rire. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous demandez l'actualité de mon papa, ça sera pareil. Il aura les conférences, les voyages à l'étranger, etc. C'est pas vrai ?
Oui. Vous avez joué au rugby également ?
Non, justement, je voulais dire que c'est la seule différence. J'ai donné un mauvais exemple. Parce que là, le sport n'a jamais été mon fort. Hein.
Aucun.
Non, je ne sais pas comme Churchill, hein, le whisky et nos sports.
Tu as skié quand même. Hein, tu as skié.
Je skiais, oui, mais enfin, je n'étais pas très bon skieur. J'aime bien nager, mais je ne suis pas un très très bon nageur non plus. J'ai joué au rugby deux ou trois fois, et une fois, je me suis cassé les deux pouces en jouant au rugby. Donc, ça m'avait arrêté à ce niveau-là. Donc, je n'ai jamais été un très bon sportif. Bon, j'aimais monter, faire la montagne. Ça, oui. Ça,
vous faites de la randonnée, j'imagine.
Oui, ça, oui. Nous avons fait le premier 3000 qu'il a fait, nous l'avons fait ensemble.
Hein. Voilà, j'avais 16 ans, c'était le Néouvielle. Un peu plus de 3000 mètres, avec mon cousin Philippe Rouzet, et on était montés sur ce sommet. Faire un 3000 dans la Vallée d'Or, c'est important quand c'est le premier. Ça se fête. Quand on est redescendu, on a bu le champagne. C'est un moment initiatique, important.
Alors, en tant que Toulousaine, je vous suis sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que j'ai appris que vous aimiez beaucoup manger.
Oui.
Les bonnes choses.
Oui, il faut le dire.
J'aimerais qu'on en parle un petit peu, parce que c'est vrai que quand on vous suit sur Facebook, on a souvent des adresses de restaurants ou des recettes de cuisine. Il m'est même arrivé de voir des recettes de cuisine.
Oui,
ça m'a beaucoup amusé.
À Garbure.
Entre autres. Je me souviens d'autres, d'ailleurs. J'aimerais justement qu'on en parle un petit peu, parce que je crois que c'est une place importante. Oui. Vous aimez la bonne chère, vous aimez le bon vin ?
Alors, j'aime la bonne chère et le bon vin en groupe, c'est-à-dire quand on est plusieurs.
C'est convivial pour vous.
C'est convivial. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est sur un moment important où les restaurateurs s'intéressent à la vérité des produits, à l'origine des produits, à tout cela. Et j'ai des très, très grands amis à Toulouse, la famille Mélier, qui est au cœur de ce dispositif. Cathy, qui tient le Bon Vivre, Denis, qui tient le Gigot. Ce sont des gens que je connais depuis peut-être plus de 15 ans maintenant, qui sont devenus de vrais amis et qui m'ont appris des choses que je ne connaissais pas sur tout ce dispositif, à tel point que ça irradie mes fils, puisque mon second a fait l'ESSEC dans la spécialité hôtellerie-restauration et le troisième a pour ambition de devenir un jour, je l'espère, chef étoilé.
Oui, donc c'est vraiment tradition familiale de regarder ses aînés pour tracer son chemin un petit peu.
Voilà, sachant que, en fait, mon petit dernier reproduit les traces de son grand-père, puisque la cuisine, c'est la chimie, finalement.
Alors. Oui, la chimie, ce n'est pas de la cuisine. Hein, voilà.
Alors,
ça fait d'accord.
Votre petit dernier, effectivement, vous venez de le dire, est fait une école pour devenir cuistot.
Oui.
Mais vous, Jean-Michel Latte, vous aimez manger. Est-ce que vous aimez cuisiner ?
Et pas du tout. Moi, je suis quelqu'un qui ne sait rien faire à la maison. Je ne sais absolument rien faire. Non, c'est vrai, je ne bricole pas, je ne fais pas la cuisine, je ne fais pas souvent le ménage. Donc, je ne sais rien faire. Voilà. Mais par contre, j'apprécie qu'on fasse.
Vous étiez pareil, Armand ?
Non, moi j'aidais beaucoup à la maison. Je crois que je continue un petit peu à aider, à faire. J'aime beaucoup faire
la cuisine. Curieusement, ça, votre fils n'a pas pris ça en exemple.
Non, moi j'aime faire la cuisine, par exemple. Oui, j'aime bien faire la cuisine. J'ai plusieurs plats comme ça que j'ai appris et que je fais. C'est une tradition familiale aussi quand même, parce que j'avais une mère qui était une remarquable cuisinière.
Extraordinaire.
Remarquable. D'abord, avec peu de choses, elle arrivait à faire des choses formidables. Par contre, ce qu'il y avait un plat que toute la famille appréciait, c'était le cassoulet. Et je crois que personne n'a jamais fait un cassoulet aussi bon.
Et le cassoulet à 7 pots.
Voilà, à 7 pots.
Qu'est-ce que ça veut dire à 7 pots?
Mais quand on fait cuire un cassoulet, on le met dans un four, par exemple, et puis dans un pot en grès, là, de manière à ce que ce soit bien cuit. Et il se forme une couche dessus. Alors on enlève la première couche, et il faut en enlever 7 avant que le cassoulet soit prêt à être mangé.
Ça prend 48 heures.
Voilà, voilà. Et ma mère était connue dans toute la famille, évidemment, le cassoulet de ma mère. Et d'ailleurs, il a interviewé ma mère et il a même enregistré la recette.
Et quand papa recevait...
La recette est sauvegardée.
Oui. Voilà, oui. Et quand papa recevait des profs chinois et que les profs chinois voulaient manger un cassoulet, il le faisait faire par ma grand-mère.
Absolument, oui.
Au moins, vous étiez sûr qu'il était bon.
Ah oui, tout à fait, oui, oui.
D'autres adresses.
Là aussi, je reviens... Il a pris goût à manger. Parce que quand il est né, il faisait pleurer sa mère parce qu'il ne mangeait pas.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Et nous avions une nounou à la maison qui s'occupait de lui et qui disait « Je vais le prendre, je le ferai manger ». Il n'aimait pas manger. C'est venu petit à petit, heureusement. Hein.
Et puis là, c'est bien installé maintenant, apparemment.
Très, très bien.
C'est pour ça que j'étais maigre à l'époque. C'était,
voilà.
Je n'avais pas envie de manger.
Ouais. Vous avez cité deux restaurants bien connus des Toulousains. Vous avez envie de nous donner d'autres adresses où on est sûr de bien manger.
Alors, sur la vérité des poissons, je vais toujours chez Eric, qui est derrière la Halle au Grain. Chez Eric, je retrouve le même discours. Eric peut vous dire à quel endroit, à quel moment a été pêché le poisson que vous avez dans l'assiette. Et il y a derrière ces traditions culinaires une même valeur. La valeur de base, c'est l'origine du produit. Et c'est à partir de là que l'histoire se raconte.
Alors, on a évoqué tout de suite avant les restaurants, on a évoqué votre actualité, mais je crois qu'il y a une actualité que vous n'avez pas évoquée. Vous êtes grand-père depuis mardi. C'est très récent. Alors, félicitations, Jean-Michel Latte.
D'une première petite fille, ce qui pour moi est un mystère, puisque j'ai eu 2 frères et 3 fils. Donc, je ne sais pas ce que c'est qu'une fille. Voilà, c'est une découverte. Alors, et elle est magnifique, c'est la plus belle.
Ah oui, ça, j'imagine. Et puis, alors, la première fille dans une famille, je suppose qu'elle va être...
Starisée.
Oui, c'est ça, starisée. Donc, Armand, vous êtes arrière-grand-père.
Je suis arrière-grand-père, voyez. Alors, comme j'aime le dire, je suis habitué déjà à être grand-père, puisque je le suis 5 fois. Donc, une seule petite fille dans les 5, 4 garçons et une fille. Alors, être arrière-grand-père, pour moi, ça ne me touche pas trop, si ce n'est comme ça m'a touché quand j'ai été grand-père, hein, mais pas davantage, je m'y suis un peu habitué. Par contre, savoir que mon fils est grand-père, ça, c'est plus difficile.
Oui, ça, je trouve que cette phrase est magnifique. Cette phrase est magnifique.
C'est très joli.
Oui.
Vous respirez.
On peut avoir le prénom de cette première petite fille.
Alors, c'est un prénom basque, parce que ma belle-fille a longtemps vécu à Bayonne. C'est Mayalen. Mayalen, en basque, ça veut dire Madeleine. Donc, c'est un prénom magnifique.
Oui,
prénom magnifique. Oui, j'aime beaucoup.
Donc, et comment elle va vous appeler? Vous avez déjà songé à cela?
Oui, moi, j'ai fait le choix de reprendre la nomination de mon grand-père maternel et de mon beau-père, c'est-à-dire bon papa.
Bon papa.
Voilà, d'accord. Je serai bon papa.
Donc on doit vous appeler bon papa, annoncez-t-elle.
Oui, je sais qu'on a beaucoup d'écart en termes d'âge, mais quand même, bon papa.
Pas tant que ça, voilà. Merci monsieur Latte, pas tant que ça. On a parlé de votre actualité. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez, au cours de votre vie professionnelle d'enseignant, écrit plusieurs articles. Vous êtes tenté pour écrire un livre?
Alors, j'ai écrit des livres juridiques.
Oui, non, mais un livre juridique.
Alors j'ai une vieille idée. J'ai une vieille idée qui est que je ferai quand j'aurai le temps. C'est je veux écrire un livre un jour qui raconterait l'histoire d'une forme de secte qui s'implique dans les universités juridiques. C'est-à-dire l'idée que finalement, par le droit, on peut transformer le monde et que peut-être, depuis que la fac de droit de Toulouse existe, il y a des gens qui ont instrumentalisé le droit pour faire évoluer le monde dans le monde des marchés, dans le monde du social, etc. Je travaille sur ça. Et je me mets des choses de côté pour le préparer un jour.
C'est pas tout public, hein.
Non, c'est pas le but. Quoique si, c'est un peu le Da Vinci Code du droit, quoi. Ça serait quelque chose comme ça.
Quelque chose, on pourrait dire, vulgarisé.
Oui, mais ce serait de montrer que cette secte, avec l'histoire du droit, peut avoir fait des interventions qui permettaient de modifier la société sans qu'elle le sache, dans un sens qui les arrangeait à eux, peut-être pas dans le sens de la société. Bon, c'est compliqué, mais c'est très clair dans ma tête.
Vous avez le temps d'aller au cinéma, Jean-Michel ?
Oui, j'y vais beaucoup.
Vous allez
J'y vais beaucoup, avec un prisme de films immense.
Oui.
C'est-à-dire que je vais voir beaucoup, beaucoup de films, des épopées. J'ai été un des premiers à aller voir le dernier épisode de La Guerre des Étoiles,
oui.
Et que j'ai adoré. Même si ce film avait été nul, j'aurais adoré quand même, parce que je suis très bon public.
D'accord. Okay. Donc, c'est plutôt des films américains.
Ah non, non, de tout.
De tout.
Mon cinéaste fétiche, c'est Claude Sauté.
Oui.
C'est un cinéaste français parce que je trouve que personne n'a rendu mieux les gens que Claude Sauté. Donc, je regarde toujours 10 fois Claude Sauté. Et là, je viens de retrouver un film qui est absolument génial, qui est complètement oublié. Un film avec Jean-Marie Perrier, tourné par Jean-Marie Perrier. C'est Antoine et Sébastien, avec Jacques Dutronc. Ce film, il faut le chercher parce qu'il existe nulle part. C'est un des plus jolis films que je connaisse. Antoine et Sébastien. Vous voudriez le regarder ?
Oui, je regarderai. Citez-moi un film. En dehors de celui-ci, un film comme ça, film que vous avez particulièrement aimé.
Un film que j'ai regardé 100 fois, c'est Harold et Maude. Harold et Maude, qui raconte cette histoire d'amour entre une grand-mère et un jeune garçon, dans un délire complet, et qui se termine par le suicide.
C'était Brigitte, heureux. Brigitte et... Non.
Le suicide heureux de la vieille dame, et c'est un magnifique film. Je crois que c'était un magnifique film, Harold et Maude. Et après, plus récemment, j'ai vu un film qui m'a marqué, qui est un petit film. C'est Le Fils à Joe. Le Fils à Joe, c'est un petit film sur le terroir, le rugby, etc., où il y a une relation père-fils qui est absolument incroyable. Mais vous voyez, c'est pas des palmes d'or à Cannes que je cite.
On peut comprendre.
Mais c'est ce que je ressens.
Marqué parce que c'est un film apparemment qui regroupe beaucoup de vos valeurs communes avec votre papa.
Voilà, c'est filmé dans le Tarn. C'est un très très joli film sur les gens. Moi, j'aime beaucoup les films sur les gens. Sauté, il faisait des films sur les gens. Voilà.
Et vous aimez aussi aller au théâtre, à l'opéra ?
Alors, au théâtre, oui. Opéra Bernard, mon frère adore. Moi, j'avoue que je m'ennuie un peu. Et la dernière fois que je suis allé à l'opéra, je me suis fait attraper par mon épouse parce que je regardais en dessous, sous le fauteuil, les résultats du match de rugby qui était en train de se jouer. Et elle a dit ce jour-là qu'elle ne m'amènerait plus à l'opéra.
Par contre, vous allez voir des matchs.
Oui, ça, je vais voir. Des alors, matchs partout.
Pour nos auditrices et nos auditeurs, le sourire de Jean-Michel. Lange.
Et des matchs de toutes catégories. Je vais voir le stade, mais je vais bientôt aller voir Colomiers contre Grenoble. Et puis, mon grand plaisir, c'est d'aller regarder le COS Saint-Lary, où je retrouve le rugby à l'ancienne, où dans les tribunes, le spectacle est merveilleux.
Vous voyagez toujours à l'étranger, comme vous faisiez à l'âge de 20 ans ?
Beaucoup moins. Je vais un peu dans le Maghreb pour l'université.
Vous donnez des cours là-bas ?
Oui, récemment je suis allé en Tunisie, je suis allé au Maroc, mais ça reste très limité par rapport à autrefois. Mon grand plaisir aujourd'hui, ce n'est pas d'aller de l'autre côté de la planète, c'est d'aller dans la Vallée d'Or. C'est un autre choix.
Qu'est-ce que vous lisez actuellement ?
Alors actuellement, ça va paraître un peu atypique, je suis sur une histoire de la vie d'Hergé qui raconte toute la difficulté qu'il a eue avec ses deux épouses. Il quitte la première pour rencontrer l'autre qui était une hôtesse de l'air et on le sent complètement perturbé. Voilà, je lis la vie d'Hergé que j'ai lue déjà 15 fois, mais sur un angle que je ne connaissais pas.
Tintin toujours pris une grande place dans votre vie. Je crois même que par rapport à vos articles de droit, vous en avez écrit.
Oui, j'ai écrit Tintin et le droit du travail.
Oui, il me
semble
avoir
vu ça. C'est un article où je montre que, par exemple, Nestor fait plus que 35 heures à Moulinsart et que si l'inspecteur du travail débarquait à Moulinsart, il y aurait une grande difficulté. Voilà. Donc j'ai extrait des Tintins tout ce qui était référence au droit du travail. Mais c'est un moyen pour moi de garder dans mon quotidien une part d'enfance, de parler de Tintin sans
voilà,
arrêt.
J'allais vous demander ce qu'évoque Tintin pour vous.
C'est mon enfance. Et donc, tant que je m'intéresse à Tintin, je reste le petit garçon comme mon papa décrivait tout à l'heure.
Il est encore très présent, ce petit garçon ?
Ah oui, j'espère, oui. Il ne faut jamais vieillir.
Oui.
C'est Brel qui disait qu'il avait fait beaucoup d'efforts pour rester jeune en vieillissant. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire. Quoi. Papa est aussi un bon exemple de quelqu'un qui reste jeune à un âge que je ne citerai pas.
Merci.
Quel est votre chanteur préféré ?
Chanteur préféré, j'ai beaucoup de chanteurs préférés. Franchement, je n'ai pas un chanteur préféré. J'ai beaucoup de chanteurs préférés. Toujours des chanteurs français. J'aime beaucoup la chanson française parce que les mots ont
chanson
du sens.
Chanson à texte.
Chanson à texte, oui, mais même des textes légers, pas forcément des textes. Après, je suis plus attiré peut-être par les musiques que par les chanteurs. Actuellement, ce n'est pas un hasard, mais je suis passionné par les polyphonies occitanes. Je ne l'étais pas il y a 10 ans. Voilà, ce sont des choses qui se passent.
Oui, là, c'est votre actualité en plus.
Par contre, je suis assez hermétique aux chanteurs récents. Et j'avoue qu'aujourd'hui, quand je vois un chanteur récent à la télé, je ne sais même pas qui c'est. Donc, c'est plus compliqué. Mais je réécoute aussi en ce moment Becco, parce que papa écoutait beaucoup Becco. Et donc, voilà, j'ai des cycles.
Jean-Michel, j'ai une toute dernière question. Quel est le titre que vous préférez ? Docteur, monsieur le professeur, monsieur le premier adjoint, monsieur le président, ou alors monsieur le premier ministre toulousain, comme j'ai pu le lire amusé sur Facebook.
J'allais dire qu'aucun de ces titres-là. Ce que je préfère, c'est papa. Quand on m'appelle papa, c'est-à-dire quand mes fils m'appellent papa, je trouve ça parfait. Et j'ai besoin de rien d'autre.
Merci beaucoup. Merci Jean-Michel.
Merci.